Michel, pour cette deuxième partie, tu prévois dans ton menu penser le tourisme autrement. Alors, que veux-tu dire par là ?
Mais écoute, Jean-Claude, chaque année, je suis surpris, et pour ne pas dire désagréablement surpris, donc choqué, par ce que je lis ou entends dans la bouche de nos élus quand ils font le bilan de l'activité touristique sur leur territoire. Je sais pas toi, mais enfin, ce que dira pense Guillaume Heras, mais alors c'est toujours dithyrambique. Saison, en fait, extraordinaire. D'innuité, en fait, en augmentation. Bref, tout est merveilleux.
Il y a des millions et des millions de visiteurs.
Oui. Alors que mon ressenti, je sais pas toi, mais est tout à fait contradictoire ce genre de propos. Un exemple, première semaine du mois de juillet, en fait, je décide avec un ami d'aller boire un pot, en fait, à Grusson-Village. À 19h, tiens-toi bien, à 19h, les bars étaient fermés, pas un restaurant ouvert. Ouais. Première semaine du mois de juillet.
Donc, constaté de visu.
Deuxième semaine du mois de juillet, je prends un pot avec au bar du même patelin, en fait, qui est celui où je vais pratiquement tous les soirs d'été, en fait, et au même bistrot, hein. Et cet ami a un chalet, en fait, à Grusson. Et alors, je lui dis, ta saison, il me semble qu'elle recule, quoi, en fait, hein, qu'elle raccourcit plutôt. Mais, écoute, mon chalet, je l'ai pas loué. Et pourquoi tu l'as pas loué?
Parce que je
loue 15 jours et on me demande des locations de 48 heures. Je peux pas louer 48 heures. C'est pas possible.
Oui, donc un gros changement constaté sur place.
Enfin, moi, le constat que je fais, en fait, effectivement, et je suis pas le seul, c'est que la saison raccourcit, en fait, de plus en plus.
Ben ça, c'est pas nouveau d'ailleurs, mais ça se confirme.
Et deux, en fait, les touristes sont de plus, en fait, nomades, si je puis dire, en fait, hein. C'est-à-dire, de plus en plus réactifs à, ben, un changement de temps, pouf, ils tapent sur le smartphone, bon, ils vont ailleurs, hein. Et où ils sont pas contents parce qu'il y a trop de vent, en fait, ou parce que c'est, pam, on va sur Booking, je ne sais quelle autre, en fait, application, et on quitte Narbonne pour aller, bon, en Pays Basque ou ailleurs. Hein. Donc, on a maintenant on est confronté à ce genre de situation.
C'est le smartphone, finalement. Ouais. C'est l'influence du smartphone sur le tourisme.
C'est la culture du zapping, quoi. Bon, les gens, maintenant, commercent sur, ils commercent sur Internet, mais ils commercent aussi, quand ils veulent acheter un séjour touristique, sur Internet, avec leur smartphone dans la poche, quoi. Et donc, ils sont de plus en plus, réactifs, ils s'intéressent à ce que l'on peut, aux appréciations que l'on porte sur les sites, etc., etc. Donc, on est dans un monde totalement différent. Il faut que l'offre s'adapte effectivement à cela. Hein. Et alors, ce que je disais en sus, et ce qui m'a été conforté d'une certaine manière par une petite phrase que j'ai lue de Sébastien Plat, d'ailleurs, tiens, le président de la commission de tourisme de la région, qui lui faisait effectivement en aparté le même constat dans je ne sais plus quelle publication, que je n'ai plus en tête d'ailleurs. Et il disait, le département ne peut plus miser sur le traditionnel séjour estival de 3 semaines, c'est fini. Comme moi, en fait, hein, pareil. On ne peut faire une croix dessus, insiste-t-il. Hein. Bon, voilà, une confirmation de mon ressenti évidente. Hein. Et alors, ce que je j'essaie de faire comprendre, en fait, à nos élus, c'est que maintenant, donc, ce qu'ils appellent les ailes, enfin, ça, c'est joli, hein, les ailes de la saison, quoi. C'est-à-dire les mois qui sont hors les 3 semaines estivales. Eh bien, les ailes, ce ne sont plus des ailes, hein. C'est le corps même de l'activité de l'activité économique touristique qui doit être pensé comme tel par les élus. Il n'y a pas un corps, en fait, qui se rétrécit de plus en plus, c'est des ailes, en fait, hein. Il y a, ce que je pense, il y a une activité touristique qui est une activité quasi permanente. Il suffit de constater, d'ailleurs, en octobre, en novembre, en décembre, à Narbonne, en fait, hein. Il y a des touristes du troisième âge,
des touristes un peu différents, mais qui existent.
Donc, ce que je dis, le message que j'essaie de faire passer, c'est que il appartient aux collectivités locales maintenant de considérer le tourisme comme une activité permanente sur le territoire et d'inclure, en fait, la dimension tourisme dans toutes les politiques relevant de leurs compétences, que ce soit infrastructure, que ce soit habitat, que ce soit environnement, que ce soit culture.
Et notamment cette notion de zapping, quoi.
Exactement. Et donc, le message abrupt, certes, mais on n'a pas trop le temps de développer ici, hein. Encore une fois, les ailes, il n'y en a pas, hein. Il ne devrait plus y en avoir. Donc, l'activité touristique, pensez-la autrement, messieurs, c'est une activité permanente. Et elle induit que vous intégriez dans votre politique permanente de tous les jours quasiment, et dans toutes vos compétences, cette dimension-là. Et non pas nous faire pendant trois semaines, en fait, des investissements lourds du style grosses animations à la Festival Traîné, en fait, et à, comment dirais-je, le Marc en scène, qui aujourd'hui, franchement, d'un point de vue de la rentabilité peut-être de ce genre d'opération,
ça mériterait
son du passé.
Voilà. Donc finalement, si je peux résumer, il faudrait supprimer les ailes du tourisme pour que le tourisme nouveau prenne son envol.
Exactement. Voilà, tu as parfaitement résumé ma pensée.
Alors, ça revient aussi à réfléchir à l'économie du numérique et avec ce que fait Grand Narbonne sur Inès pour développer des compétences. Ça revient aussi à développer sur l'arrière-pays et mettre en relation l'arrière-pays et le littoral et toute l'année, effectivement.
Ouais, donc ça fait un
les
vaste programme.
Qui sont prévus, dont on parlait en antenne sur le Somail. Les grands chemins qui amènent à connaître et verbise les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, bien sûr.
Ça veut dire une programmation culturelle, par exemple, du Dessentin, qui s'intéresse aussi à des publics qui sont extérieurs, en fait, à la région, en fait, etc., etc. Donc, je veux dire, d'abord, avant de discuter sur les moyens, changer effectivement de logiciel et penser
changer de regard.
Effectivement. On a un musée de la Romanité aussi qui va amener à un tourisme culturel sur toute l'année.
On verra quand il existera quel produit il offre. Tu veux appliquer le même théorème, si je puis dire, Michel, à la redynamisation des centres-villes.
Oui, parce que la dernière remarque de Guillaume Herras, c'est juste, à propos du musée. Mais je vais y venir. Aujourd'hui, qu'est-ce que je lis dans la presse, pour ce qui concerne les plans de revitalisation du centre-ville dans le cadre de la procédure mise en place par l'État à tout cœur de ville, parce qu'effectivement les cœurs de ville aujourd'hui souffrent, beaucoup d'entre eux,
à Narbonne et ailleurs.
Et quand je lis en fait les discours, en fait, ou les propos des politiques sur ce sujet, je me rends compte à chaque fois qu'ils prennent le problème par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire ils prennent le problème par le biais et par la seule activité commerciale. Comment redynamiser le commerce pour redynamiser
le centre-ville?
C'est absurde.
C'est une dimension.
C'est une dimension et c'est pas forcément la principale. Pourquoi? Parce que un centre-ville, ce qui fait sa vie, c'est quoi? C'est d'abord les gens qui y habitent. Donc ça veut dire s'interroger sur le type d'habitat et sur le type de résident que l'on souhaite voir effectivement s'installer ou se développer sur la ville. Donc ça veut dire que dans la politique de l'habitat, qui est en partage avec l'agglo d'ailleurs, le privé à la ville, je parle pour Narbonne, et le social à l'agglo, on doit dans cette politique-là intégrer effectivement la dimension touristique et la dimension revitalisation du centre-ville. Et non pas comme un accessoire, comme un bonus. Non, c'est au cœur, effectivement, de cette réflexion-là que doit être pensée, effectivement, ce genre de choses. Pareil pour la culture, pareil pour l'activité touristique, pareil pour les aménagements. Tiens, je rêve un peu, parce que j'avais un ami, quand j'étais au ministère de l'Industrie, qui un ingénieur des mines, qui a écrit d'ailleurs un super bouquin, un ingénieur des mines, Le pouvoir des rêves. Le pouvoir des rêves, c'est Léonard Vinci qui avait imaginé des scènes avec des hélicoptères, quoi. Puis bon, après, on a inventé des hélicoptères. Mais rêvons un peu pour Narbonne. Enfin, imaginons par exemple que l'on trace une coulée verte. Une coulée verte qui partirait de la médiathèque jusqu'au musée. À la limite, je vais très loin. Quoi,
une belle promenade verte.
J'imagine, bien sûr. Et rêvons. Quoi. Bon, les barques, on la gazonne. Enfin, on les gazonne jusque là-bas. En fait, Je rêve.
Encore qu'avec le climat méditerranéen, le gazon,
c'est une image, mais je vois une parenthèse, je ne dis pas ça au hasard, c'est parce que dans une ville qui est Versailles, le maire qui dit vers droite, c'est pas forcément une politique de gauche qui doit être appliquée, lui il l'a fait. Toutes les chaussées qui dégagent, ils dégazonnent. Je ferme la parenthèse.
Oui, sauf que le climat de Versailles n'est pas celui de Narbonne.
D'accord. on a des placettes sur Narbonne, on a 5 ou 6 placettes qui devraient être aménagées là aussi. Je ne vais pas développer sur le sujet, mais à travers ces deux exemples-là, l'habitat, les aménagements, surtout le fait qu'avec le réchauffement climatique qui rajoute effectivement au problème que j'évoquais concernant le tourisme et la revitalisation du centre-ville, le réchauffement climatique implique aussi que l'on modifie les stratégies d'urbanisation, des aménagements d'une ville. Parce que pourquoi? Parce que le réchauffement climatique implique pour demain, c'est-à-dire pour la ville du 21e siècle, des villes qui soient beaucoup plus vertes pour le carbone,
ne serait-ce que
bien sûr,
pour bien respirer,
plus aéré, moins de bagnoles, c'est-à-dire moins de circulation avec qui produisent des gaz, avec et donc une circulation plus douce donc et plus verte. Hein. Voilà donc, il suffirait, je termine là-dessus, que les c'est un appel que je fais aux élus de Narbonne, à ceux qui y sont et ceux qui voudraient y être, en fait, au mandat de cette ville.
Il faut toujours penser à l'avenir.
De retenir simplement ça, quoi. Hein. La ville de demain, du 20e siècle, sera plus verte, plus douce, plus aérée. Et avec ça, pensez effectivement toute votre politique d'aménagement. Et vous verrez que on se portera mieux.
Eh ben, on se portera mieux. En tout cas, Dieu vous entende, Michel. Et nous marquons une deuxième pause.